Salut à tous, ici Zeny et aujourd'hui, comme dans tous les autres épisodes, nous allons tenter de répondre à des questions. Mais là, nous allons surtout tenter de répondre à la question que vous auriez dû vous poser quand j'ai commencé cette émission. Pourquoi ce nom? Pourquoi avoir choisi le nom de Poké Freak Show? Bon, le poké est assez évident ici, mais Freak Show? C'est quoi un Freak Show en fait? Donc sortons un peu du cadre de Pokémon pour répondre à cette question. Comme ça, on arrêtera de me la poser. Mais personne ne te l'a posée. Donc les Freak Shows étaient des spectacles très populaires aux États-Unis durant le 19e et 20e siècle. En gros, il s'agissait surtout en quelque sorte d'une grosse période dans la vie des cirques états-uniens itinérants. Mais le principe de ces spectacles était d'exposer des personnes ou des animaux possédant un aspect physique sortant de l'ordinaire. Vous pouvez y voir des géants, des nains, des femmes à barbe, des siamois ou dans tous les cas, des personnes possédant des difformités génétiques ou issues d'un accident tellement hors du commun qu'ils pouvaient attirer très souvent la moquerie et la compréhension, mais surtout la fascination des gens pour ce qui leur semble différent. Bon, évidemment, ces choses-là sont aujourd'hui interdites, et tant mieux parce que c'était quand même avant tout du trafic d'humains. Mais dans de très rares cas, ils pouvaient permettre à des personnes différentes de se sentir important, d'avoir l'impression que leurs défauts pouvaient devenir une force. Bon, à la fin, ça restait immoral. Mais imaginez, une personne qui a toujours été à l'ombre par honte et qui, l'espace d'un instant, se retrouve sous les projecteurs et se sent aimée grâce à cette particularité. Cet aspect-là des Freak Shows, il peut se faire sentir dans l'excellence The Greatest Showman de Michael Grasset, sorti au début de cette année 2018 et que je vous conseille à tous. Et en tout cas, ce film fut une source d'inspiration pour moi. Parce qu'en fait, j'en avais un peu marre de voir des vidéos YouTube faisant des tops, des pires Pokémon ou des Pokémon qui ne méritaient pas d'exister. J'en avais marre que ces petites créatures innocentes soient régulièrement la source de moquerie. Je pense sincèrement que tous les Pokémon valent le coup et sortent pas de nulle part. Et j'espère que je vous l'ai prouvé dans les deux épisodes précédents. Ce qu'on peut reprocher à un Pokémon peut finalement devenir l'une de leurs plus grosses forces. Que les critiques qu'on leur fait, ça s'apparente généralement plus à de l'incompréhension qu'autre chose, alors que si on prend le temps de s'intéresser à eux quelques instants, on voit tout l'or qu'ils enferment. Et l'épisode d'aujourd'hui va complètement dans ce sens. Outre le fait que le sujet du jour aurait eu totalement sa place dans des freak shows de notre monde à nous, il a, tout comme un seul rodeau, été dans l'ombre le plus total durant de nombreuses années, sauf que lui, Internet ne lui a jamais servi de tremplin. Mais alors qu'il était voué à être complètement oublié de tous et bloqué dans sa génération, un événement très récent a finalement tout chamboulé. Non seulement cet événement nous a fait rappeler son existence, mais surtout il a permis d'éclairer beaucoup de choses et de découvrir tout le potentiel incroyable que possédait sa difformité. Mais avant de vous révéler le Pokémon du jour, je vous propose d'abord de nous pencher sur ce fameux événement. Le 30 mai 2018 a été une très grande date pour toute la communauté de Pokéfans du monde entier. Non, ce n'est pas parce que c'était le lendemain de l'annonce des jeux Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Non, un autre événement dont personne n'attendait a complètement éclipsé la promo de ces deux jeux-là. Car à cette date-là, une chose totalement inattendue a été découverte. Il s'agissait d'une démo, celle de Pokémon Or et Argent qui date de 1997, soit 4 ans avant la sortie officielle de ces deux cartouches. Cette démo nous vient de la Nintendo Space World Convention de cette année-là. Dit comme ça, ça peut paraître banal. Sauf que ce genre d'événement dans Pokémon est assez rare vu que très peu d'informations nous sont parvenues sur la genèse de ces jeux, et nous nous plaçons seulement un an après la sortie de Pokémon Rouge et Vert, ce qui est très récent. Cette découverte nous a permis de découvrir qui était prévu à l'origine pour les versions Or et Argent. Par exemple, saviez-vous que le jeu devait pas se passer uniquement dans le Kansai, mais dans une map gigantesque qui s'inspirait du Japon en entier ? Vous vous en doutez peut-être, mais le principal intérêt de cette découverte ne résidait pas seulement dans la simple construction du jeu. Une autre chose liée a été découverte, une chose incroyable qui a beaucoup secoué le cœur de plein de fans. Il s'agissait d'une liste, la liste d'images des 99 Pokémon qui étaient prévus au départ pour la seconde génération. Dans cette liste, on retrouve bien évidemment des Pokémon qui existent toujours dans cette 2G comme Marill ou Togepi, mais aussi des Pokémon qui ont été finalement supprimés comme Kotora et Raitora, deux gros tigres hamsters qui resteront à jamais dans nos cœurs comme les meilleurs presque Pokémon de tous les temps. On retrouve également des Pokémon qui devaient être les évolutions ou pré-évolutions de certains Pokémon de la première génération, comme les pré-évolutions de Meowth et Tadmorph, ou les évos de Canarticho et... Métamorph. Et enfin, on a aussi retrouvé les anciens visages des Pokémon de la deuxième génération, voire de la 4G. Dans cette liste, on retrouve les anciennes versions de Pichu, Porygon2, Hyporoi, Philali, Macronium et Girafarig. Et c'est de ce dernier dont nous allons parler. Mais déjà, si ça vous intéresse, je vais mettre cette fameuse liste de ces Pokémon en description, ainsi que le lien vers un long message Twitter que j'avais fait ce jour-là, qui décrit point par point chacune de ces images. Bref, Girafarig. Girafarig donc est le Pokémon numéro 203 du Pokédex, et l'un des seuls Pokémon de type Normal Psy, avec Meloetta en forme champ et Gouroutant. Ni évolution, ni pré-évolution, il possédait des stats correctes, mais insuffisants pour un Pokémon au stade final. Ouais, ça vous rappelle un Solurdo avec qui, d'ailleurs, il partageait la génération. Mais enfin, en moins pire. Même s'il fait aussi 1m50 pour 41,5 kg, il a quand même une bonne bouille plus mignonne avec une grosse truffe qui fait la moitié de son visage. Puis je sais pas si vous l'avez vu, mais Giraffe Ali a une apparence de girafe. Tout le monde aime les girafes. Passons maintenant à ses capacités en combat. Donc au niveau de la stratégie, il a accès à 3 talents. Attention qui l'empêche d'être apeuré, Matinale qui lui permet de dormir moins longtemps, ainsi que Herbivore qui lui permet d'augmenter son attaque lorsqu'on lui envoie une attaque plante. A part ce dernier, c'est vraiment pas ouf et il est clairement inexploitable en stratégie en fait. Dans ses attaques, il n'a pas accès à de grosses capacités, à part les meilleures attaques psy, et ne possède aucune stat au-delà de 100. De ce fait, notre pauvre girafe est dans le tiers PU, même s'il est apparu dans le conseil des 4 à Shino. Bref, c'est pas dans une arène qu'on le retrouvera. Là où vous le retrouverez par contre, ce sera plutôt sur la route 43 à Johto, celle qui mène au lac Colère et au fameux Léviator Rouge. On le retrouve là-bas abondamment d'ailleurs. Cela le différencie de un seul Lourdeau vu précédemment, puisque sa faiblesse est cette fois, effectivement proportionnelle à sa rareté. Nous ne parlerons donc pas ici de pourquoi il est si faible ou pourquoi il est si commun, vu que là c'est plutôt raccord. Cherchons ailleurs son intérêt. Voyons son physique. Avant toute chose, Giraffe Harig est une girafe. En tout cas, il ressemble à une girafe. L'avant de son corps est jaune avec des taches brunes, un énorme museau et une crinière rose, et deux antennes blanches. Ça rentre complètement dans la définition d'une girafe. L'arrière de son corps, lui, est complètement brun avec des taches jaunes. Donc l'inverse de l'avant. Et inverse sera un peu le mot-clé de cet épisode, retenez bien ça. Mais surtout, et c'est peut-être là tout l'intérêt de ce Pokémon, sa queue se finit par une tête. Une petite tête sphérique aux yeux jaunes possédant une mâchoire qui fait la moitié de son visage. Une tête qui, par ailleurs, fait beaucoup penser aux chombes dans Mario. Alors ok, ça pourrait être effectivement un clin d'œil à l'univers de Shigeru Miyamoto, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi Game Freak a incrusté un chombe à la queue d'une girafe ? Niveau étymologie, je sais pas si vous avez remarqué, mais le mot Giraffe Harig, le nom de ce Pokémon donc, est un paladrome, c'est-à-dire un mot qui peut se lire dans les deux sens. Il part de girafe et le répète à l'envers, Farig. En japonais, on retrouve la même chose. Kirin Riki est également un palindrome si on inverse les syllabes, ou katakana, de son nom. Et comme dans son nom français et anglais, Kirin veut dire girafe. Bref, est-ce que ça veut dire que cette queue est le berceau de Giraffe Harig et que celle-ci peut totalement vivre indépendamment ? Genre le corps lui-même de Giraffe Harig serait en quelque sorte un palindrome ? Ça serait intéressant. Voyons voir ces descriptions de Pokédex tout de suite. Déjà, Pokémon Or nous dit direct que sa queue a effectivement un petit cerveau, et Argent nous dit que si on en approche trop, elle peut nous mordre. Pokémon Go, car oui, Pokémon Go aussi a des entrées du Dex, précise qu'elle réagit surtout aux sons et aux odeurs. Et Pokémon Saphir nous dit que ce cerveau est beaucoup trop petit pour penser. Mais elle n'a pas besoin de dormir, donc elle sert à monter la garde à Giraffe Harig. Dans Pokémon Emerald, en plus de nous dire que Giraffe Harig est effectivement un herbivore, il dit que sa queue broute en même temps que sa tête principale. Bref, il y a quoi à retenir de tout ça ? Que Giraffe Harig est une girafe avec une queue qui lui sert de sirène d'alarme, et rien de plus. C'est pas suffisant, mais on s'approche peut-être de quelque chose. Mais du coup, en fait, quelles sont ses origines ? Pourquoi une girafe avec une tête à la place de sa queue ? Est-ce qu'il y a une légende populaire, genre africaine, qui parle d'un cryptide qui ressemblerait à une girafe à deux têtes, ou quelque chose du genre ? Alors spoiler, pas du tout. Déjà, quand on analyse Giraffe Harig, on se rend compte d'un truc assez fou. J'ai beau avoir répété le mot girafe 12 fois depuis le début du podcast, 13 fois maintenant, en fait cette girafe n'est en réalité pas une girafe. En effet, malgré tout, on a omis un détail, son cou n'est pas assez long. Du coup, Giraffe Harig est censé représenter quel animal ? Alors là, il y a deux écoles. La première prétend qu'il s'agit plus d'un okapi, un animal cousin de la girafe au cou beaucoup moins long, mais qui, comme Giraffe Harig, possède deux parties, puisque ses pattes ont la même couleur que celle d'un zèbre. La seconde théorie est la plus probable, est que Giraffe Harig s'approche plus du Giraffochirix. Qu'est-ce que le Giraffochirix ? Il s'agit tout simplement d'une espèce éteinte de la même famille des girafes et de l'okapi, potentiellement leur ancêtre commun même. Ce machin-là ressemble banalement à une girafe, mais avec un cou bien moins long et de bien plus grosses antennes. Donc clairement on se rapproche complètement de la partie antérieure de Giraffe Harig, qui répond bien à cette description. Après cela peut aussi être une coïncidence et Game Freak a juste voulu faire une girafe avec un cou moins long. Mais au moins on sait quel animal ressemble le plus à Giraffe Harig. En fait, quand on y pense, Giraffe Harig aurait pu même être un Pokémon fossile. Maintenant, parlons de sa queue. D'où vient l'idée d'avoir une queue avec un cerveau ? Dans toute la littérature scientifique, zoologique et paléontologique, nous avons supposé l'existence d'un cerveau dans la queue d'un seul animal, le Stegosaurus. En effet, lors de sa découverte dans les années 1870, les paléontologues avaient découvert une petite cavité au bout de sa moelle épinière, et du coup, ils avaient supposé que ce dinosaure avait potentiellement un second cerveau. Et dans les premières théories, on a même supposé que ce dernier pouvait effectivement lui servir de signal d'alarme quand les prédateurs s'approchaient. Du coup, même si cette théorie a vite été écartée par celle d'un centre nerveux pour la partie postérieure de son corps, ça pourrait bien être raccord. Sauf que... Même si cette théorie est reprise par tous les sites de Pokémon qui parlent de Girafarig et qui semblent tous s'accorder à dire que la source de cette queue vient effectivement de là, ça se tient pas du tout pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça n'explique pas du tout pourquoi ils ont choisi une girafe, par exemple. Limite, si on parlait d'un Diplodocus au lieu d'un stégosaure, ça aurait pu le faire, et on aurait bouclé le dossier, mais non. Un stégosaure, c'est ni une girafe, ni un Girafocérix, ni même le cousin de ces deux animaux-là. Donc cherchons ailleurs. Une autre théorie, et une autre histoire de cerveau dans une queue, proviendrait de l'Iliade de l'écrivain grec Homère avec la fameuse chimère. Pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler, il s'agissait d'une créature mythologique possédant une tête de lion et de chèvre, mais aussi des ailes d'aigle, des pattes de dragon, et surtout un serpent à la place de la queue. C'est intéressant tout ça, ça voudrait donc dire que la queue de Girafarig serait en fait un serpent ? Après, il est vrai qu'elle ressemble à des égards à Serpang, Pokémon haut de la 3ème génération qui s'inspirait d'un serpent de mer. Cela a peut-être effectivement inspiré cette queue en fait. D'autant qu'il existait dans la liste des Pokémon de la démo d'or et argent, donc des Pokémon qui étaient prévus au départ, une esquisse de ce fameux Serpang. Est-ce qu'au final, ces deux Pokémon ont fini par fusionner ? On s'approche sans doute de quelque chose. On a potentiellement l'origine du design de cette queue en fait. On avait dit qu'il ressemblait à un chomp, mais le fait que ce soit un serpent et même ce serpent, je trouve ça plutôt intéressant. Mais bon, on revient toujours au même problème. Pourquoi diable Girafarig ressemble autant à une girafe ? Pourquoi ce n'est pas un lion, une chèvre, voire même un stégosaure pour corroborer avec toutes ces associations ? En quoi une girafe a plus de sens que tous ces animaux ? Bref, vous l'aurez compris, Girafarig est un vrai casse-tête pour toute personne cherchant les origines de Pokémon. En fait, il ne fait pas sens, rien ne concorde. On a plus l'impression que les théories que j'ai citées sont plus des coïncidences qu'autre chose. D'où vient ce Pokémon, concrètement ? Comment a-t-il été pensé ? Pourquoi une girafe ? Pourquoi cette queue ? Pourquoi son nom est un palindrome ? Et c'est là où notre introduction va nous servir. Comme je vous l'ai dit, une étape de la création de la plupart des Pokémon de la deuxième génération nous a été révélée en 2018. Mais en fait, malgré tout, ce n'est pas la première fois qu'un tel événement s'est produit pour cette génération. Il y a 2 ans par exemple, des images avaient été découvertes sur ce qui devait s'appeler à l'époque Pocket Monster 2, Pocket Monster étant l'ancien nom du jeu avant que les fans le contractent pour Pokémon. Dans cette première version datant de 97, on découvrait déjà un Marill jaune, un Capoeira Mélofée, Quillfish, Germignon, ainsi que, vous vous en doutez, Girafarig. Sauf que dans cette première version, ce dernier était complètement différent. Ne possédait pas encore la fameuse queue qui nous casse la tête depuis tout à l'heure, mais à la place, c'était carrément un alter ego qui l'opposait. Si vous avez vu une fois dans votre vie le dessin animé Micha Michien, vous devriez rapidement visualiser ce que je décris. Sinon, imaginez 2 faces avant d'une girafe, une plus sombre que l'autre, collées entre elles depuis le corps, de telle sorte que l'un est la face postérieure de l'autre. Et là, plusieurs choses font sens. Déjà, on comprend mieux pourquoi son nom est un palindrome, puisque son corps était lui-même littéralement un palindrome. Bien plus que le pseudo-palindrome qu'on a aujourd'hui en tout cas. On arrive mieux à cerner ce qui aurait pu être ses origines, ou en tout cas une source d'inspiration. En effet, le concept d'un animal miroir n'est pas innocent. Ça nous vient d'une série de romans anglais du 20e siècle appelée Le Docteur Dolittle de Hugh Lofting, paru entre 1920 et 1952. Oui, comme le film avec Eddie Murphy sorti en 98, et d'ailleurs un autre film avec Robert Downey Jr. s'inspirant de cette œuvre devrait sortir l'année prochaine, en 2019. Cette série de romans racontait alors l'histoire de John Dolittle, un simple médecin de campagne qui apprenait le langage des animaux grâce à son perroquet. Il devient alors, au fil des pages, naturaliste et protecteur des animaux, tout en s'entourant de créatures haut en couleur, comme son perroquet, un hibou, un singe, un cheval malvoyant, une mythe géante venant de la lune, une otarie, et la créature qui nous intéresse, la plus impressionnante de toute sa troupe, et la plus digne des plus grands cabinets de curiosité, le Pouche-mi-Pouliou, ou Pousse-moi-tire-toi en VF. Le Pouche-mi-Pouliou est donc une gazelle qui possède 2 têtes à chaque bout du corps, totalement comme la première version de Girafarig. Selon ce roman, cette créature serait la descendante de la dernière licorne, alors forcément, un Pokémon de ce genre, ça donnerait envie, non ? Totalement original, complexe, et qui se contente pas d'une simple copie d'un animal comme on en a beaucoup. Eh bien, visiblement, c'est ce qui était prévu au départ. Donc vous devez sans doute trouver ce concept de créature intéressante. Mais figurez-vous qu'on ne va pas s'arrêter là, puisqu'il y a eu une autre étape dans la création de Girafarig, que je trouve encore plus cool. En effet, dans la démo que j'ai citée au début du podcast, donc celle de 1997, On y découvre encore une autre version de Jira Farig, toujours en mode push me pull you, mais un chouïa différent. En effet, le côté postérieur est plus sombre que dans la version précédente. Beaucoup plus sombre. Et ce qui est intéressant, c'est que la démo ne nous offrait pas seulement la vue face de ce Pokémon, mais aussi leur vue de dos, quand c'est un Pokémon que nous, on lance. Et sur celle de Jira Farig, eh bien on voit le visage de son verso. Un visage malsain et démoniaque, bien loin du visage naïf et simple de Jira Farig. Un visage qui vous fixe du regard et qui rit de votre âme. En bref, cette seconde partie devait sans doute être le jumeau maléfique de Jira Farig. Ou une entité miroir attachée à lui, son opposé quoi. Et d'autres éléments sont venus corroborer ça. En plus de ce design, Jira Farig avait deux autres particularités assez intéressantes. Déjà, il n'était pas de type psy et normal, mais ténèbres et normal. Certes, pas un meilleur type en stratégie, mais quand même, un double type qui montre bien cette dualité entre le recto de ce Pokémon tout banal et son verso qui respire la malveillance. Ce proto-Jira Farig avait une dernière particularité qui le différencie de sa version finale, en plus du type et de son apparence. C'est que, contrairement à sa version d'aujourd'hui, il possédait une pré-évolution. Twins était donc le nom de cette fameuse pré-évolution. Également de type normal et ténèbres, il devait évoluer en Jira Farig au niveau 29. Peu d'informations nous ont été révélées sur lui, et on n'a pas ses entrées du Pokédex, ça serait trop facile. En tout cas, bien qu'il n'était pas de type spectre, son apparence était fortement proche d'un Fantominus. En quelque sorte. Sauf que c'était en réalité plus deux Fantominus collés l'un à l'autre. Deux âmes liées en soi. Et donc l'une des deux serait maléfique. Donc voilà ce qu'était Jira Farig, 4 ans avant la sortie officielle de Pokémon Or et Argent. Une girafe qui devait vivre avec son double maléfique collé à lui, et ce depuis leur naissance. On ne saura jamais ce qui était vraiment prévu concrètement avec ce concept, si la partie simple de Jira Farig était vraiment simplette et si la partie maléfique était effectivement maléfique. Mais en tout cas, ce jumeau maléfique, limite son frère siamois, s'est beaucoup réduit au fil des années pour au final n'être plus qu'un visage avec un très petit cerveau. Mais attendez, un jumeau siamois qui a été réduit à un simple visage à l'arrière d'une personne? Mais si, ça y est, je sais d'où vient Jira Farig. Edward Mordek était un Britannique du 19e siècle. Les fans de American Horror Story ont déjà dû entendre ce nom, puisque c'est un des personnages de la 4ème saison de la série, celle appelée Freak Show. Oui, Freak Show, on y revient à mon intro, c'est fou, non? Réputé pour sa grande beauté et son intelligence, ce personnage était réputé dans les quatre coins des îles britanniques. Mais ce brave dandy possédait en fait un lourd secret. Juste derrière son crâne, il avait un visage. Un visage endormi, caché sous son haut de forme. Celui-ci ne parlait jamais et restait inexpressif, bien qu'il aurait été vu parfois suivre les gens du regard et murmurer. Mais d'après Mordek lui-même, ce visage murmurait des choses démoniaques qui lui étaient adressées. Il riait quand celui-ci pleurait, le rabaissait tout le temps, l'empêchait de dormir, et lui chuchotait des propos haineux. Imagination de sa part peut-être, mais vous vous rendez compte l'enfer que ça serait d'avoir une telle entité juste à l'arrière de son crâne, qui vous rabaisse tout le temps et qui ne cesse de vous envoyer des idées sombres. En tout cas, avant son suicide à l'âge de 23 ans, Mordek affirmait que ce visage était diabolique et demandait à ce qu'on le détruise à sa mort pour qu'il ne lui parle pas dans sa tombe et qu'il ne gâche pas sa propre mort. Cette histoire est une légende urbaine, bien évidemment, et on n'est même pas sûr que Mordek existait, même si la duplication crâno-faciale est une maladie extrêmement rare, certes, mais qui existe bel et bien. Mais il est fort à parier que cette histoire a servi d'inspiration pour la création de Proto-Jira Farig. En tout cas, je vais me permettre ici de donner mon avis, mais très honnêtement, j'aurais adoré avoir ce concept comme Pokémon. Un Pokémon qui paraît simplé, mais qui en réalité lutte avec lui-même, cherchant à s'en sortir coûte que coûte, mais qui est toujours suivi, et ce, depuis la naissance. Ça aurait été quelque chose de tellement intéressant, bien que je comprenne que le projet ait été abandonné, puisque trop mature pour le public visé. Puis voir ce visage maléfique à chaque fois qu'on combat, ça aurait bien traumatisé une génération de joueurs bien plus que la musique de l'avant-ville. Cela dit, ce qui est dommage, c'est que Jira Farig est passé d'un Pokémon au concept incroyable à un Pokémon finalement très banal que tout le monde a oublié. C'est d'ailleurs le principal commentaire qui est sorti de cette révélation. Jira Farig est devenu pour beaucoup l'illustration d'un Pokémon gâché. Mais attendez. Finalement, ce concept a-t-il vraiment été abandonné? Et si l'histoire d'Edward Mordek n'avait pas été totalement effacée du génome de ce Pokémon? En fait, quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'on sait de la queue de Jira Farig? Qu'elle a un cerveau trop petit pour penser? Elle a un visage qui ne bouge jamais et réagit que par réflexe. Elle ne dort jamais, elle peut réagir en fonction des gestes de Jira Farig. Tous ces faits viennent des différents Pokédex cités plus haut. Eh bien, je trouve que ça ressemble énormément à cette légende urbaine, en fait. Le visage caché de Mordek bougeait peu et ne dormait pas la nuit pour pouvoir lui souffler des choses. Et si c'était pareil pour Jira Farig? On ne sait pas s'il lui soufflait des choses ou si cette tête était diabolique. Mais on pourrait supposer. Déjà qu'elle mord tout ce qu'elle voit, c'est déjà difficile. Donc est-ce que cette queue serait-elle pas un fardeau physique et mental pour ce pauvre petit Pokémon? Cela expliquerait peut-être sa faiblesse en combat. Plus que contre ses adversaires, Girafarig doit déjà lutter avant tout contre lui-même. Je le répète, rien ne prouve ce que je dis si ce n'est l'évolution du concept de ce Pokémon. Mais on pourrait même aller plus loin. Par exemple, Twins, c'est un Pokémon abandonné. Mais est-ce qu'il a été vraiment abandonné? Genre Twins serait un Pokémon qui se battrait contre lui-même pour savoir lequel des deux dominerait l'autre, tandis que l'autre serait réduit à un simple visage au bout d'une queue. Une lutte fraternelle entre deux esprits qui pourrait se faire même avant la naissance. Après tout, on ne sait pas ce qui se passe dans un œuf de Pokémon, donc on pourrait supposer que Twins est en réalité un fœtus? Ou en tout cas deux fœtus siamois. L'un deviendrait le recto de Girafarig, et même l'entièreté de son corps, tandis que l'autre ne pourra que tenir les arrières de son adelphe pour lui souffler des choses. Et forcément, ce ne serait pas des choses agréables, genre il aurait la haine pour avoir perdu l'entièreté de son corps promis. Et si cette légende urbaine existait vraiment, c'est sans doute ce qui se serait arrivé à notre cher Edward Mordake. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette idée donne un tout autre sens à cette girafe oubliée. Et on l'a obtenue grâce aux premières versions de ce Pokémon. Vous visualisez toutes les histoires incroyables qu'on pourrait élaborer si on nous révélait l'origine de tous les Pokémon. Imaginez toutes ces petites créatures qui pourraient être sauvées de la haine si on connaissait leur évolution graphique. Tous ces concepts de Pokémon qui ont été sacrifiés et qu'on aimerait découvrir. Ce serait fabuleux si on avait la genèse des 808 Pokémon. Mais dans tout ça, nous avons tout de même oublié un détail. Parce que bon, c'est bien joli toutes ces histoires de frangins siamois. Mais au final, bah... pourquoi une girafe? Dans le livre de Hugh Lofting, le Pushmi-Pullyu était l'assemblage de deux gazelles, pas de girafes. Même dans son adaptation de 1967, c'était pas non plus une girafe, mais des lamas. Et nulle part il s'est fait mention d'une girafe à deux têtes, en fait. Je vous jure, j'ai cherché partout, j'ai absolument rien trouvé à ce sujet. Donc d'où ce concept vient? On parle de lui depuis 20 bonnes minutes, et on invente de belles histoires sur des rivalités fraternelles. Mais est-ce qu'on est passé à côté de l'essentiel? Eh bien en fait, je joue avec vous depuis tout à l'heure. Car l'origine de la girafe a un sens logique. Et je vous l'ai presque dit tout à l'heure, en fait, puisqu'elle vient de son étymologie. Comme je l'ai dit, le nom de Girafarig est un palindrome. Mais surtout, je vous l'ai dit, son nom japonais est aussi un palindrome. Kirin Riki, donc. Comme je vous l'ai dit, Kirin veut dire girafe en japonais. Sauf que Kirin, à l'envers, Nenriki, est un mot qui existe aussi, et veut dire télékinésiste ou esprit. Et voilà, nous sommes partis très loin sur les origines de Girafarig, mais la réalité est là. L'entièreté de Girafarig vient en réalité d'un jeu de mots entre girafe et télékinésiste. On sait donc pourquoi c'est une girafe, pourquoi il est de type psy et pourquoi il possède deux esprits. Tout ceci partait d'un jeu de mots japonais. Et c'est incroyable comme les détails d'un Pokémon peuvent se jouer à pas grand chose, non? Grâce à ce jeu de mots tout bête et à l'imagination de Game Freak pour tenter de faire un Pokémon palindrome jusqu'au bout, Girafarig est devenu le Pokémon miroir, et c'est pour ça qu'on l'aime! Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu, et j'espère que le plot twist final vous aura bien retourné. L'univers de Pokémon a la particularité de laisser très peu de place au hasard, et le fait qu'on parle d'un Pokémon ressemblant à une girafe avait forcément une origine. Et on a fini par la trouver. Après, Girafarig a été construit grâce à une succession d'idées pour donner le design qu'on lui connaît aujourd'hui. Et finalement, la source de ce qui se rapproche le plus de lui, c'est bien la chimère et la mythologie grecque. Dans tous les cas, la semaine prochaine, nous ne parlerons pas de un, mais de deux Pokémon, l'un étant l'évolution de l'autre. Parce que oui, il y a des Pokémon incompréhensibles, mais il y a aussi des évolutions incompréhensibles. Il faut peut-être aussi se pencher sur eux, vous croyez pas? Merci en tout cas d'avoir écouté, et n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ça vous a plu. N'oubliez pas non plus de soutenir Radio Kawa en passant par le Patreon, et écouter d'autres podcasts. D'ailleurs, en parlant de podcasts, petite nouveauté par rapport aux deux premiers épisodes, vous retrouverez une courte promo d'une autre émission sympa juste après la musique. Restez là! Dans tous les cas, à dans 15 jours pour découvrir de nouvelles choses sur des créatures de poche. Ciao! Eh mais dis donc, le Poké Freak Show c'est une semaine sur deux, mais qu'est-ce qu'il y a les autres mardis? Eh bien il y a Allo Central. La culture c'est comme la confiture, il y a tellement de choix qu'on ne sait jamais quoi prendre. Pas de panique, pour vous aider à faire le tri, il y a Allo Central. Livres, films, séries, musique, sorties, installés dans la taverne de Luxbox, les chroniqueurs d'Allo Central décortiquent vos loisirs préférés, de la culture pop à la culture générale. Allo Central, la culture sans modération, un mardi sur deux, sur Radio Kawa.